Bonjour à toutes.
Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Clément Solezard, Juliette Gadeau, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Jean Guilhermège. Toute cette semaine, donc, nous revenons sur les guerres de la drogue. Mardi, nous nous intéresserons à l'Iran, mais aussi aux Philippines, où la guerre contre la drogue fait rage aux grandes dames des populations les plus fragiles. Mercredi, nous chercherons à comprendre les effets économiques de la manne du trafic de drogue. Et puis jeudi, on s'intéressera aux pays qui ont fait le choix de la légalisation. Mais pour commencer, cap vers l'Amérique latine, qui ces dernières semaines a régulièrement fait l'actualité avec le Brésil et les nombreuses mutineries dans ces prisons qui ont fait plus de 100 morts depuis le début de l'année, mais aussi avec le Mexique où la guerre entre les groupes de narcotrafic qu'en fait rage également le Mexique, qui récemment a extradé le plus célèbre d'entre eux, El Chapo, Joaquín Guzmán de son vrai nom.
Aujourd'hui, à 6h40 du matin, des éléments de la marine ont arrêté Joaquín Guzmán Loera dans la ville de Mazatlán, en même temps qu'un de ses collaborateurs.
Nous pouvons confirmer que la caméra avait deux angles morts dans la cellule. Le tunnel par lequel il s'est évadé débouchait derrière le mur de la douche. C'est ce mur qui bouchait la vue de la caméra.
Je suis profondément consterné par l'évasion de ce délinquant. C'est un affront pour l'État mexicain.
Conformément à la procédure d'extradition, nous avons assuré le gouvernement mexicain que la peine de mort ne serait pas réclamée. Donc s'il est reconnu coupable, il encourt une peine de prison à vie.
Alors que les relations entre les États-Unis et le Mexique sont au plus bas autour de la construction de ce mur décidé par Donald Trump pour lutter contre l'immigration et qui la semaine dernière a provoqué une première crise diplomatique puisque le président mexicain Enrique Peña Nieto a annulé sa rencontre avec son homologue américain, le trafiquant de drogue Joaquín El Chapo Guzmán a été extradé la semaine dernière aux États-Unis après deux évasions spectaculaires du côté du Mexique. On va tenter de voir ce qu'il y a derrière cette extradition concernant la lutte contre les narcotrafiquants, mais aussi les rivalités entre ces groupes et ce qu'elle nous dit de la manière dont ce narcotrafic a pu devenir au cours du temps un facteur structurant l'économie et la société jusque dans ses moindres recoins. Alors comment la guerre contre le narcotrafic envahit-elle le social et quelles en sont les répercussions? Qui sont les hommes, les femmes qui sont derrière cette chaîne de coopération? Au-delà de la seule géographie, où se situent les frontières sociales, politiques de ce commerce illégal? Et pourquoi au Mexique, par exemple, la violence a-t-elle explosé ces deux, trois dernières décennies alors qu'elle avait été relativement contenue jusque-là? On s'intéressera également au Salvador, où ces questions se posent également. On évoquera également le cas du Brésil, un pays qui a vu ses prisons, je le disais tout à l'heure, s'embraser ces derniers jours. Comment expliquer cette violence? Quelles sont les factions, les rivalités en jeu? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord deux personnes avec nous en plateau. Sabine Guez, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, docteur à l'EHESS, auteur d'une thèse sur la ville de Ciudad Juárez et les pratiques sociales liées au narcotrafic. On évoquera le cas du Mexique avec vous. Et puis à vos côtés, Benjamin Moalik, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous doctorant à l'EHESS, un spécialiste des maras qu'on voit notamment au Honduras et au Salvador, qu'on évoquera tout à l'heure. On va commencer peut-être avec vous, Sabine Guez, et avec cette question du Mexique, parce qu'il y a cette décision d'extrader El Chapo qui avait été vue comme un signe, disons, envoyé au nouveau président américain pour lui dire combien il était important, évidemment, de ne pas briser totalement les liens entre les deux pays, combien cette coopération en fait était à préserver. Avec cette crise diplomatique ces derniers jours entourant cette confirmation du projet de mur par Donald Trump, on peut dire évidemment que le geste mexicain ne semble pas avoir convaincu le nouveau locataire de la Maison Blanche et on voit très clairement qu'on se dirige vers une relation qui s'annonce très compliquée entre Mexico et Washington. C'est évident, Sabine Guez.
Oui. Pour ce qui est de l'extradition du Chapo, il y a une évidente dimension théâtrale. Elle intervienne à quelques heures de la prise de fonction d'un nouveau président. Effectivement, ça peut. On peut imaginer que c'est un geste politique, un geste de faire montre de bonne volonté sur les questions de coopération avec Washington. Mais fondamentalement, il faut souligner qu'elle change pas grand-chose. Les drogues, elles franchissent la frontière en grande quantité et ça de manière incessante. Et sur le terrain, bon, ça fait un an qu'il a été de nouveau interpellé le Chapo et la situation de violence est toujours la même.
Mais on pourrait se demander, Sabine Guest, pardon de vous couper, dans quelle mesure est-ce que le Mexique pourrait aussi perturber d'une certaine manière la lutte contre le trafic et la coopération avec les États-Unis en la matière? Il n'y a pas de levier par lesquels, justement, le Mexique pourrait limiter sa coopération?
Vous avez l'air dubitatif.
Enfin, c'est une... Depuis les débuts de la prohibition, en fait, il y a une coopération. Hein. Après, il y a effectivement du théâtre politique, mais sur le fond, les deux pays ont intérêt à ce qu'il y ait prohibition, finalement. Le régime prohibitionniste, il est générateur de corruption et de beaucoup d'argent, donc, et aussi d'emploi.
Et donc,
d'emploi.
Le financement potentiel pour les partis, par exemple.
Voilà, et aussi d'emploi, entre guillemets, légaux, hein, puisque il y a tout un plein de dispositifs juridiques, policiers, qui dépendent de cet argent-là, et aussi du combat.
Oui, la réponse est plutôt non. Au départ, Sabine Guest, Enrique Peña Nieto, donc le président mexicain, était opposé à l'extradition d'El Chapo. Oui. Puis finalement, il a changé d'avis. Il est devenu favorable. Pourquoi ce retournement? C'est purement politique?
Je ne suis pas dans les secrets de ces décisions. Donc, je ne sais pas. Voilà. D'ailleurs, on peut aussi dire, on peut avancer l'hypothèse que le geste, il est à l'adresse de Obama. Ça a été fait juste avant et précisément pour que Trump n'en tire.
Ne bénéficie pas de cette.
Voilà.
Ça
ne change rien. Je pense pas que ce soit fondamental, en fait. Bon, c'est vrai que c'est une nouvelle, mais il y a eu l'an dernier à peu près 23 000 homicides au Mexique. Ça fait 62 morts par jour. Les drogues, elles circulent. Voilà.
Encore un petit mot sur El Chapo et puis ensuite on va s'intéresser à votre travail de terrain parce que vous avez fait un vrai travail en profondeur et vous avez fait émerger quelques figures qui nous permettent de comprendre justement comment ce trafic se diffuse dans l'ensemble de la société. Mais l'un des enjeux aussi peut-être du futur procès d'El Chapo, c'est la question des protections politiques dont il a forcément bénéficié pour parvenir à être ce qu'il a été. C'est-à-dire que évidemment on ne devient pas El Chapo sans être un peu protégé. Et on peut imaginer que peut-être certaines personnes vont être entraînées dans sa chute. C'est une possibilité. Quand on voit le travail que vous avez fait et les implications, notamment au niveau de l'administration, on se rend bien compte que potentiellement, il y a des responsables qui pourraient...
Oui, ça se passe rarement comme ça. En fait, ces grands chefs des organisations de trafic passent des accords avec la justice américaine et du coup, eux en tirent un bénéfice de protection pour leurs proches, des accords extra-judiciaires. Eux, les informations qu'il va très certainement partager côté états-unien, on va pas en savoir grand-chose et on n'est pas certain qu'il y aura des répercussions sur le plan politique. Mais qu'il y ait eu protection, oui, non. Elle n'est pas seulement potentielle, elle est très évidente.
Alors, vous avez soutenu une thèse sur l'ordinaire du trafic de drogue à Ciudad Juárez du côté du Mexique, à El Paso du côté des États-Unis. On va se mettre justement au niveau de cette frontière entre le Mexique et les États-Unis.
The border situation is very unique.
Cette frontière est unique au monde. Vous avez d'un côté les États-Unis qui est la plus grande puissance économique du monde, et de l'autre, un pays du tiers-monde. C'est le jour et la nuit. Voilà, on vient juste de passer la frontière. On est là pour profiter de la main-d'œuvre bon marché. Et en même temps, on crée des emplois là où il n'y en avait pas. Le salaire moyen dans une maquiladora est d'environ 180 francs par semaine. Mais à ça, il faut ajouter les avantages. Une fois par mois, s'ils ont bien travaillé, ils reçoivent une grosse boîte avec l'essentiel. 5 kilos de riz, 5 kilos de farine, de la farine pour faire les tortillas, On préfère ne pas leur donner d'argent liquide, car ça, on est sûr qu'ils l'apporteront à la maison.
Etrege, patron d'une entreprise dont l'usine s'est implantée justement à la frontière, c'est ce qu'on appelle les maquiladoras, ces zones bénéficiant d'exonération et de droits de douane, et sur lesquelles sont produits des marchandises qui sont destinées à l'exportation. Vous dites que Ciudad Juárez, au Mexique, et El Paso, côté États-Unis, constituent, je vous cite, un pivot sur la route transaméricaine de la cocaïne, de la marijuana, de l'héroïne et de la méthamphétamine. L'économie de la drogue y occupe des dizaines de milliers de personnes et il y intéresse un nombre incalculable de participants en raison du poids du trafic et de la circulation spectaculaire de revenu illégal. Vous dites que c'est à partir des années 80, en réalité, que toutes les classes sociales, ou quasiment, vont être associées à tout ça, ou en tout cas qu'on a une nouvelle ère qui va s'ouvrir à ce moment-là. Pour quelle raison ?
Oui, je me suis intéressée au trafic de drogue comme à une activité qui est à la fois organisatrice, autant organisatrice que désorganisatrice. Hein. Il y a deux questionnements qui ont guidé ma réflexion. Comment l'ordinaire de l'organisation sociale autour de cette modalité de l'illicite qui est le trafic de drogue s'est construit, donc l'histoire, quelle a été l'histoire de ça, et aussi comment les frontaliers s'en arrangent. Pour rebondir sur le petit segment qu'on a entendu, là, ben, le trafic de drogue, c'est comme une maquiladora illégale. L'industrie maquiladora est très, très importante à la frontière et le trafic de drogue aussi, sauf qu'effectivement c'est en sourdine, c'est pas officiel. Alors à partir des années 80, selon moi, c'est une période charnière dans l'histoire du trafic de drogue, mais pour plein de raisons dans lesquelles je peux entrer dans le détail de tout ce qui se passe. Mais bon, on peut commencer par dire que c'est une période de très grand essor du trafic du négoce de la cocaïne et que les trafiquants mexicains qui ont un très grand savoir-faire en matière de contrebande et depuis des décennies et des décennies vont monnayer ce savoir-faire auprès des trafiquants et des producteurs sud-américains et ils vont au fil du temps renverser et inverser le rapport de force avec aujourd'hui ils contrôlent toute la chaîne de production et de distribution de la cocaïne andine. Donc, dans les années 80,
Il y a aussi la fermeture de la Floride, qui était ancien point d'entrée pour les narcotrafiquants colombiens.
Oui, il y a tout un tas de facteurs. Il y a ça, effectivement, qui fait que le pays, le Mexique devient un pays de transit en masse de la cocaïne et que, c'est aussi une période de cheminement vers la libéralisation politique du Mexique et que la démocratisation politique, finalement, va s'accompagner d'une démocratisation de la corruption. Il y a tout un tas de chaînons et de mécanismes de contrôle, parce qu'avant, jusque-là, et encore un peu de temps, l'État contrôle, depuis le sein de l'État, depuis l'intérieur de l'État mexicain, il y a un contrôle politique exercée sur l'activité narcotrafique et encore dans les années 80 bien entendu et jusque dans les années 80 mais ça commence à s'effriter dans les années 80 en raison de enfin il y a plein de facteurs hein, institutionnels, politiques, il y a des il y a un parti qui tient les rênes du pouvoir depuis 70 ans qui est contesté, donc il y a une montée d'opposition, il y a aussi donc des agences comme le renseignement mexicain c'est une agence qui s'appelle on l'appelle
la Direction CIA. Générale de la Sécurité.
Ouais, la CIA mexicaine, qui est démantelée. Or, c'était un vivier de trafiquants depuis 40 ans et elle organisait, elle structurait ce négoce à l'échelle du pays. Elle est démantelée pour des histoires de corruption dont on ne peut pas vraiment parler là. Il y a ce mouvement vers l'autonomie des trafiquants des raisons institutionnelles comme celle-là ou politiques, la démocratisation. Hein, les trafiquants, ils commencent à s'adresser à des gens, à d'autres partis, mais aussi à d'autres échelles du pouvoir.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de décentralisation en réalité, parce que au départ, on a le gouvernement fédéral qui, d'une certaine manière, impose, distribue des formes de, je mets des guillemets, mais des formes de quotas en réalité aux narcotrafiquants. Et puis, on va diluer tout ça, on va passer le pouvoir, si je peux me permettre, au niveau des États, au niveau plus local. Et ça va engendrer une explosion de la violence en réalité.
Alors, ce qui engendre une explosion de la violence...
Il y avait une forme de régulation de contrôle qui vole en éclats.
Alors, il y a des systèmes, des mécanismes de contrôle qui sautent, il y a des verrous qui sautent. En effet, ça y contribue, mais pas tout de suite. En fait, pourquoi il y a de la violence s'il y en a à la suite de ces changements-là ? C'est parce que les gens ne tiennent plus leur parole. au fond, il y a une telle manne d'argent. Tout le monde veut une part du gâteau. Et du coup, il y a beaucoup d'avidité. Et les accords, à partir des années 80, c'est ce qu'on observe, et de manière encore plus prononcée dans les années qui suivent, les décennies suivantes et jusqu'à aujourd'hui, les accords ne sont pas toujours respectés. Et parfois, ils entrent en contradiction les uns avec les autres. Autrement dit, à l'échelle d'une municipalité ou d'une région, ce qui peut se passer, c'est que plusieurs personnes, plusieurs fonctionnaires vont vendre l'usufruit de la région à une organisation de trafic à plusieurs organisations. Et les trafiquants, à partir du moment où ils sont plus protégés, ils jouissent plus de la protection en très haut lieu à l'échelle fédérale de politique, ils vont devoir s'en remettre à des personnes, à des échelons inférieurs du pouvoir. Et s'ils recourent à la violence, d'une certaine façon, c'est parce que ils doivent aussi garantir le fonctionnement de leur négoce. Moi, mon travail, ce qu'il montre, c'est qu'en plus de ces facteurs institutionnels et politiques, dans les années 80, ce qu'on observe, c'est qu'il y a aussi des transformations sociales. En fait, il y a une dynamique sociale qui se crée dans le sillage de l'essor du négoce de la drogue, une dynamique de légitimation sociale des trafiquants, qui est concomitante et inversement proportionnelle à la délégitimation du pouvoir politique.
Alors justement, incarnons un peu les choses. Vous évoquez dans votre travail le cas d'un homme que vous avez eu l'occasion de rencontrer lors de l'un de vos séjours à Ciudad Juarez. Cet homme, c'est Roberto, un homme grand, très fin et aux manières élégantes d'un autre temps, un homme de culture littéraire et politique, homme de réseau évidemment, discret, très bien introduit dans les cercles du pouvoir au niveau local et fédéral. Et c'est lui qui vous fait rencontrer un homme qui s'appelle Don Silvio. Racontez-nous ce que cet homme faisait au tournant des années 80, cette période justement charnière, et comment est-ce qu'il est finalement devenu un acteur de facto de ce trafic ?
Oui, un peu à son insu et sans le vouloir. Hein, c'est un homme qui a 22 ans, sans doute assez brillant, qui fait des études de droit et qui est recruté et qui commence à travailler à l'âge de 22 ans au ministère de l'Intérieur, Secretaria de Gobernación, qui fait au début de l'analyse des questions électorales et qui va faire de l'analyse stratégique. En fait, lui, il va travailler au sein du renseignement. Il y a la Dirección Federal de Seguridad, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui était l'organisme qui générait l'information. Et puis, il y a une autre agence au sein de laquelle lui travaille à Juarez et dans cette région-là, pour faire qui décrypte en fait cette information, qui lui fait de l'analyse politique et sociale. Et il se lie d'amitié dans le cadre de son travail. Déjà, il faut dire aussi, ça c'est important, que les années 80 sont des années de grande proximité. Toutes les classes sociales confondues, entre trafiquants et autres membres de la société. Ce qui se passe aussi à l'époque, c'était pas une si grande ville que ça, Ciudad Juarez, et toutes ces personnes-là se côtoyaient depuis l'école. Par exemple, Don Silvio, sur les bancs de l'école, il était copain avec Rafael Aguilar, qui est un ancien commandant de la Dirección Federal de
Seguridad. Un des cofondateurs du cartel de Juarez.
Voilà, qui va devenir un grand trafiquant de drogue. Donc, ils se connaissent déjà, ils se côtoient de façon très très libre et ouverte et transparente dans les années 80, c'est ce qui fait aussi ce qui caractérise cette période. Et lui, dans le cadre de son travail, il va rencontrer des trafiquants qui lui font confiance, qui lui font des confidences qui le lient. Et il est très discret, mais du coup, il se trouve un peu pris. Il est tenu au secret, attrapé. Au fond, moi, mon travail, tous les personnages dans mon travail, ce que j'essaie de montrer, c'est comment chacun et comment la génération de Silvio notamment. Grosso modo, des personnes qui ont eu 20 ans dans les années 80 ont été happées par cette activité. Donc lui, il fait une expérience de la porosité, de la légalité et d'illégalité. Comme quoi...
Oui, parce qu'il y a beaucoup de narcotrafiquants, effectivement, vous racontez ça, qui ont fait leurs âmes à cette Direction fédérale de la sécurité, qui était chargée notamment de la lutte contre les mouvements de gauche et les guerrieros des années 70. Et vous écrivez, ils réalisent qu'ils pourraient gagner mieux que leur quote-part dans les produits du trafic, fort de leur sentiment d'impunité né de la perpétration des pires crimes politiques. Ils décident de se consacrer à plein temps à ce négocier illégal, autrement dit, de passer du public au privé. On a cette perméabilité entre légalité et illégalité. Elle est là.
Oui, elle est là à tout moment, en fait. C'est presque, enfin, c'est une fiction idéologique. Il y a la loi, les textes qui disent que le trafic de drogue est une activité prohibée. Et puis, dans les faits, c'est une activité autorisée depuis le sommet de l'État et depuis les débuts de la prohibition. Puisqu'il faut souligner, rappeler, c'est presque une lapalissade, que pour qu'il y ait trafic, il faut qu'il y ait interdiction. C'est l'interdiction qui fait le trafic.
Oui, donc en fait, en réalité, la Direction fédérale de la sécurité, pendant longtemps, couvrait certaines activités du narcotrafic sur ordre des politiciens, tout simplement.
Oui, elle les organisait. Elle était une force, une instance médiatrice entre le politique et les trafiquants. Elle faisait le lien.
Alors pourquoi justement ce lien va être cassé? Est-ce que c'est lié, là je reprends un peu vos propos tout à l'heure, est-ce que c'est lié effectivement au processus de démocratisation du pays?
Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était il y a démocratisation politique et il y a démocratisation de la corruption, c'est-à-dire que il y a plus de personnes vers lesquelles se tourner ou vers lesquelles on doit se tourner quand on est trafiquant pour pouvoir mener à bien son activité, pour nouer des accords de protection, puisqu'il s'agit de ça, protéger les convois, protéger le négoce. Donc il y a ça, et puis pour le reste, il y a surtout, comme j'ai commencé de le dire, il y a cette manne incroyable d'argent dans une période de crise économique et de crise financière en série, qui font qu'il y a des besoins. Et plein de personnes veulent, pourquoi pas, tenter leur chance. C'est une période, au fond, où les frontières de l'espace moral, du possible et du légitime, elles bougent. Tout le monde est amené à s'interroger sur ses propres limites. Est-ce que je tente un coup? Est-ce que je... pas? Jusqu'où? Voilà, ça se joue à ce moment-là. Et en effet, à l'époque, il y a tout un tas de prises de participation dans des capacités diverses, parfois très éloignées du trafic de drogue.
Ouais, vous dites dans les années 80-90, les frontières de l'espace moral, vous redites cette formule, l'espace moral du possible et du légitime bouge. Donc on voit effectivement que finalement ça devient moralement acceptable. Cette rupture justement, c'est quelque chose qu'a vécu l'une des figures qu'on croise dans votre article, qui s'appelle Caramella, qui est une ancienne mannequin, un temps agent immobilier, apprend-on. Pendant longtemps, elle avait été proche des narcotrafiquants, en tout cas du temps où elle fréquentait... où il fréquentait aussi ces narcotrafiquants, des gens de la bonne société. Et puis, elle a fini par s'en écarter à mesure, justement, que la violence, justement, que la guerre entre les cartels se montait en puissance.
Oui, c'est l'ancienne égérie de trafiquants.
Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
L'ancienne égérie de trafiquants, elle a 20 ans dans les années 80, c'est une femme très belle, très, très attirante et qui donc noue des amitiés et qui jusqu'à aujourd'hui a des amis trafiquants. Donc en fait, moi, mon travail raconte son amitié et sa droiture en amitié avec un trafiquant qui n'est plus parmi nous, qui est mort récemment.
Mais elle s'est jamais sentie trafiquante, c'est ce que vous dites?
Pardon?
Elle s'est jamais sentie trafiquante?
Non, et d'ailleurs, elle l'est pas du tout, comme la plupart des personnes qui ont un intérêt de manière indirecte au trafic. Elle y participe pas, mais elle donne un coup de main, mais comme une amie le ferait, sans imaginer à aucun moment que les actes, ces actes en lien avec le trafic de drogue, sont criminels.
Il y a encore quelques années, Ciudad Juárez, on le disait très souvent, c'était l'une des villes les plus dangereuses du monde, entre 2008 et 2012 en particulier. Tout le monde disait que c'était cet épicentre de la guerre contre les cartels.
Ouais.
Et aujourd'hui, la ville s'est un peu pacifié.
Oui,
comment?
Tout à fait. Alors, il y a eu une redistribution du pouvoir entre tous sur le territoire urbain. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des territoires clairement définis en ville qui sont acquis à une faction ou l'autre. Effectivement, il y a eu une baisse de la violence homicide, mais on a encore autour de 45 morts par mois. Et puis, au quotidien, il faut dire que l'ordinaire de moi dont je parle, c'est absolument, enfin, c'est pas le train-train, c'est pas l'éternel retour du même. Cet ordinaire, c'est justement l'incertitude au quotidien et l'impossible routine, dans la mesure où il n'y a pas d'état de droit, l'arbitraire règne, ce qui signifie qu'à tout moment, votre vie peut basculer, même, voilà, on peut y vivre en vaquant à ses occupations, tant que la violence vous touche pas, personnellement, mais néanmoins, il y a ce règne de l'arbitraire qui peut vous atteindre à tout moment.
Drogue, les guerres sans fin, c'est notre sujet cette semaine dans Culture Monde. Ciudad Juarez, San Salvador, Sao Paulo, de la violence quotidienne à la guerre des gangs, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On va parler du Salvador, un petit pays d'Amérique centrale de 6 millions d'habitants situé au sud du Mexique. C'est l'un des pays où il y a le plus de meurtres aujourd'hui. 2016, 14,4 meurtres par jour. C'est l'un des taux d'homicide les plus élevés au monde, le Salvador.
Ces tatouages, c'est le sigle de la bande à laquelle nous appartenons. C'est M et S. Mara Salvatrucha, c'est le nom de notre gang. Et sur le bras, ça veut dire « prisonnier pour l'amour de ma mère ». Tu as réussi le coup que je t'ai demandé ? Vous devez faire ce que je vous demande et c'est tout. Et si ce compte ne vous paie pas, vous savez déjà ce qu'il faut faire avec lui. Non, pas plus tard, tout de suite. Dans une heure, je vais vous voir ici avec l'argent. Sinon, j'envoie quelqu'un te chercher.
Qu'est-ce qu'ils croient, tous ces connards, dans ce quartier ? Il faut que tu montres ce que tu vaux. Ici, ce sont les maras qui commandent. C'était super, la femme a eu vachement peur.
Alors, t'as tué la vieille ou pas ?
Non, elle a eu la trouille lorsqu'elle m'a vu avec le pistolet.
Tu l'aurais tué s'il ne t'avait pas donné l'argent ?
Oui, bien sûr, sans peine.
Voilà, au cœur du gang Maras le plus dangereux du monde, extrait d'un documentaire diffusé récemment dans Spécial Investigation. Je me tourne vers vous, Benjamin Moalig. C'est vrai, ces Maras sont tristement actifs dans cette région-là. Avant les années 90, il n'y avait pas vraiment de gang au Salvador. Il n'y avait pas les Maras tels qu'on les connaît aujourd'hui. Est-ce que vous pourrez nous raconter dans quel contexte ils font leur apparition et pourquoi finalement le Salvador va se trouver être un territoire propice à l'implantation de ces gangs en particulier ?
Alors, avant les années 90, il y a au Salvador une guerre. Donc, il y a des affrontements politiques, une guerre civile, jusqu'en 92.
79 à 92,
oui. Voilà, de 79 à 92. Et il y a ce qu'on appelle des bandes, des petites bandes rivales, des bandes de quartier qui existent, et ce qu'on appelle des barras, qui sont des groupes scolaires qui s'affrontent dans des rixes, mais qui sont... disons, qui font peu de morts, qui sont des sortes de gangs de blousons noirs. C'est à partir des années 90 que vont se structurer ces deux grandes gangs qui existent aujourd'hui, les Mara Salvatrucha et le Barrio 18, et qui se structurent à partir de l'expulsion depuis les États-Unis de membres de ces gangs qui se sont constitués aux États-Unis.
Ils arrivent. Donc les États-Unis vont renvoyer finalement les criminels qu'ils ont dans leur prison. Ils les renvoient chez eux au Salvador.
Exactement, parce que au cours des années 80, il y a eu d'importantes migrations de réfugiés qui sont partis et qui sont installés illégalement aux États-Unis. Les enfants sont nés là-bas, parfois de parents illégaux, donc eux-mêmes illégaux, ou sont arrivés très jeunes. Et une fois qu'ils vont se mettre dans des gangs, notamment des gangs mexicains, avec des Mexicains, ils vont passer par la casse-prison, puis être renvoyés parce que illégaux. Et une fois au Salvador, ils vont se retrouver dans un pays qu'ils ne connaissent pas.
Ils sont totalement imprégnés de la culture du crime qu'ils ont connu dans les prisons. Ils sont à peu près 3000, hein, c'est à peu près ça le chiffre. 3000 à être envoyés du coup au Salvador. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une situation telle qu'en réalité, c'est une situation de violence que maintenant, il y a certains Salvadoriens qui fuient leur pays à cause précisément de cette violence et de l'arrivée finalement de ces criminels. 2012, Benjamin Moalig, il y a une trêve qui avait été annoncée entre le gouvernement de l'ancien président Mauricio Funes et les Maras, justement. Elle avait duré jusqu'en mai 2013. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas tenu cette trêve ?
Parce que c'est une trêve qui s'est faite en sous-main, organisée par l'armée et sous l'égide de l'Église, qui sont au Salvador les deux institutions qui encore traditionnellement représentent les garants de l'ordre social. Et donc il y a eu une sorte d'organisation qui s'est un pacte qui existe déjà, de qui sont aussi des traditions de ces organisations de maras qui ont déjà conclu des pactes dans les années 90 de non-agression. Or ces pactes ne marchent pas parce que si bien ils ne se tuent plus entre eux, ou du moins en partie, les extorsions et le racket continuent. Et elle était le moment d'une recomposition de ces maras, notamment autour du trafic de drogue.
Récemment, on a justement deux de ces gangs, donc la Mara Salvatrucha 13 et Barrio 18, oui. Je ne sais pas si je prononce correctement, qui ont annoncé leur désir de négocier à leur tour la démobilisation de leur groupe, affirmant vouloir précisément freiner l'escalade de violence entre ces gangs-là et les troupes, les forces de sécurité. Et le gouvernement du Salvador a rejeté cette proposition de trêve. Pour quelle raison ?
Alors, le gouvernement pense que c'est un moyen pour ces gangs à la fois d'éviter le lancement de nouvelles mesures de sécurité, c'est-à-dire l'enfermement des chefs de ces gangs dans des prisons de haute sécurité avec des mesures draconiennes qui leur permet plus de contacter l'extérieur et de continuer en fait d'alimenter un réseau d'extorsion et de racket qui les alimente en prison. C'est le premier point. Le second, c'est qu'il pense que c'est le moment, enfin que cette trêve est pour les gangs le moyen de se reconvertir à la fois dans le blanchiment d'argent et le trafic de drogue. Et leur idée est qu'il faut à tout prix démanteler ces organisations par la répression, et notamment en tapant aujourd'hui sur les finances de ces organisations.
Est-ce qu'aujourd'hui on est dans une situation de rivalité entre les différents groupes, ou est-ce qu'on est dans une situation plutôt où finalement, peut-être pas d'alliance, mais en tout cas, est-ce que les guerres entre les gangs, entre les groupes criminels a cessé pour justement faire bloc d'une certaine manière avec un gouvernement qui a choisi précisément d'être sur le tout répressif et de ne pas envisager de trêve, de ne pas envisager de programme de réinsertion comme il y a pu en avoir notamment. Est-ce qu'on est dans cette logique-là ? Finalement, la criminalité versus le gouvernement et plus de guerre interne ?
Alors oui et non, c'est-à-dire que à la fois ce sont des organisations extrêmement fragmentées et qui à certains niveaux locaux ne sont pas du tout articulées aux chefs de ces gangs qui se trouvent eux en prison. Disons que dans les prisons, il peut y avoir des accords qui ne tiennent pas du tout à l'extérieur, et ces affrontements vont continuer et continuent d'ailleurs entre gangs rivaux à des niveaux locaux. Or, ce qu'on voit plutôt, c'est que les chefs, eux, sont tout à fait capables de s'accorder pour pouvoir mener des opérations de finance, de blanchiment d'argent, de investissement dans des négoces.
Est-ce qu'il y a au sein du pouvoir politique au Salvador des liens avec les groupes criminels, comme on a pu le voir tout à l'heure avec la question du Mexique ?
Alors, avec les maras, peu, même si on voit qu'il y en a qui se sont constitués au moment de la trêve, notamment avec le gouvernement en place du FMLN. Mais ce sont beaucoup plus avec ce qu'on appelle les transporteurs, qui sont des contrebandiers et qui, eux, sont spécialisés dans la contrebande, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent. Et ces groupes-là, oui, sont très liés à des politiques et aux partis du politique, dont un cartel qui s'appelle le cartel de Texas, qui est très connu au Salvador, qui n'a pas été complètement démantelé, puisque les têtes de ce cartel sont des députés, des maires, liés à deux des partis anciens, le PDC et le PCN, et qui sont aujourd'hui alors inquiétés, mais qui ont suffisamment de capacité de corruption pour pouvoir faire traîner la justice.
Il y a certains journalistes au Salvador qui évoquent, de la part des forces de sécurité, de la part de la police ou de l'armée, des exécutions extrajudiciaires. C'est quelque chose de fréquent ?
Alors, on sait peu de choses. On sait que il y a des groupes de milices qui se sont constitués. Il y en a déjà depuis les années 90, des milices qui traquent et assassinent des supposés mareros. On sait qu'il y en a eu dans certaines villes vers Suchitoto du centre et de l'est du pays, mais on ne sait pas exactement quelle est l'ampleur du phénomène.
Sabine Guez, est-ce que la situation à Salvador vous semble comparable avec celle du Mexique qu'on évoquait juste avant ?
Enfin, je n'oserais pas des comparaisons, mais...
Est-ce que vous voyez des jeux de miroir, peut-être, entre les deux situations ?
Oui, ce que ça m'évoque, en tout cas, c'est qu'il y a une situation, il y a des accords, il y a des phénomènes criminels. Bon, là, par exemple, l'expatriation de membres de gangs, enfin anciens détenus, qui à un moment donné échappent, dont les effets de tout ça nous échappent aux personnes qui au départ sont à l'origine de ces décisions. Et pour ce qui est du Mexique,
on le pourrait tout à fait franc, Sabine Guez, si on avait un peu essayé de comprendre ce que pouvait être potentiellement les effets du renvoi de 3000 criminels des prisons américaines vers les prisons du Salvador, il y a pas beaucoup à réfléchir pour dire que les effets allaient être dévastateurs.
Il y a un phénomène comparable à Juarez El Paso, dans la mesure où les alliés les bandes alliées à l'ancien cartel de Cario Fuentes, qu'on appelle le cartel de Juarez, hein. Ce sont les Aztecas qui, eux aussi, se sont constitués dans les prisons états-uniennes, hein, et qui sont l'une des principales forces de la Linea, hein, qui a repris le flambeau après la dissolution, la fragmentation du cartel de Juarez. Hein. Donc la Linea, elle est constituée, entre autres, des Aztecas qui sont aussi issus des prisons, pour certains d'entre eux, hein, des prisons états-uniennes. Mais ce phénomène-là est tout à fait comparable. Et puis, oui, ces accords ont eu lieu, une fragmentation extrême, parce qu'au niveau très local, les accords ne sont pas forcément respectés. Et ce que ça m'évoque de comparable, en effet, c'est l'ascension et la prolifération ces dernières années au Mexique de tout un tas d'organisations criminelles qui pour les unes se réclament de la justice divine, pour les autres font assaut de violences spectaculaires contre les forces de l'ordre. Il y a ce phénomène-là de hyper-fragmentation et de prolifération de groupes.
Benjamin Moalic, la question maintenant, c'est que faire face à cette violence, face à ces groupes ? Regardons par exemple ce qui se passe dans la capitale, San Salvador. Le nouveau maire, qui s'appelle Nayib Bukele, qui est un jeune homme de 35 ans, un ancien publicitaire, il mène une guerre totale contre les maras, sauf qu'il a parfaitement aussi compris, il a parfaitement conscience que la réponse sécuritaire, évidemment, a ses limites et qu'il faut également une réponse sociale. Alors il essaye, lui, de mettre en place quelques initiatives pour essayer de reconstruire du lien social. Alors ça peut paraître totalement naïf, mais c'est des choses qui en réalité sont très importantes. Par exemple, il a installé des bornes Wi-Fi dans les rues, des systèmes d'éclairage dans les grandes places, dans les grandes avenues, pour diminuer la sensation d'insécurité et pour pousser les gens à se réapproprier l'espace public, parce que c'est ça en réalité l'enjeu. L'espace public a été perdu.
Alors effectivement, il y a toute une politique de récupération des espaces publics, de rénovation urbaine et de présence policière dans les lieux qui étaient considérés comme abandonnés. On met de l'éclairage public, on met de la présence policière. C'est un peu, si vous voulez, la théorie de la vitre brisée. Donc il faut vraiment instaurer l'idée qu'il y a de la présence policière. Alors l'effet, c'est qu'il y a une expulsion des maras vers les campagnes. Et qu'aujourd'hui, avant, il y avait énormément de meurtres en ville et beaucoup moins en campagne. Or aujourd'hui, ça s'est tassé.
La violence.
Voilà, la violence s'est déplacée vers les campagnes.
C'est la même chose du côté du Mexique aussi. Il y a eu des politiques comme ça de rénovation urbaine pour tenter de lutter contre cette forme de criminalité. Des choses qu'on voit sous notre Juarez ou...
Oui, il y a des téléphones, des lignes téléphoniques qu'on peut appeler. Je suis pas sûre que ça soit très efficace.
C'est sans effet pour vous. On va prendre la direction du Brésil. Il y a quelques jours, il y a des émeutes dans une prison du nord-ouest du pays qui ont fait 25 morts. C'est une nouvelle effusion après d'autres qui avaient éclaté au début du mois de janvier.
Ils
n'ont pas tous été décapités, mais un grand nombre de détenus l'ont été. De ce qu'on a pu observer, ils ont été victimes de beaucoup d'abus. Il y a eu beaucoup de violence. C'était en quelque sorte une façon d'envoyer un message à une autre faction.
Ils ont attendu la fin des heures de visite, et au moment de retourner dans leur cellule, les détenus sont tous allés au pavillon en même temps. La police a essayé de les arrêter, mais les prisonniers étaient beaucoup plus nombreux que la police, et ils ont réussi à déjouer la sécurité.
Les prisonniers avaient fait une promesse aux gardiens. La promesse que tout se passerait bien et qu'il n'y aurait pas de problème pendant les fêtes. Ils n'ont pas tenu leur promesse. Mais peut-on faire confiance à des criminels ?
Voilà, donc 25 morts récemment dans cette prison du Nord-Ouest. Il y avait eu 56 morts dans une prison de Manaus les 1er et 2 janvier dernier. Et puis 4 jours plus tard, 33 morts dans une autre émeute près de la frontière avec le Venezuela. Bonjour Daniel Veloso Hirata.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis le Brésil. Vous êtes sociologue, professeur à l'Université fédérale Fluminense. C'est une centaine de personnes qui ont perdu la vie là dans les prisons brésiliennes depuis le début de l'année. Les autorités évoquent la guerre que se jouent les deux principaux gangs du pays, le premier commando de la capitale, le PCC de Sao Paulo et le commando Vermelho de Rio de Janeiro. On est là au cœur de cette guerre des gangs au Brésil avec évidemment en son sein la question du contrôle du trafic de cocaïne. Mais est-ce que cette guerre des gangs suffit à expliquer cette hécatombe, Daniel Veloso Hirata?
Oui, apparemment, c'est une des raisons, disons, à la surface de problèmes criminels brésiliens. En fait, les factions, les groupes criminels qu'on a au Brésil, c'est un peu le résultat de toute une série de politiques répressives et d'emprisonnement au Brésil. Au Brésil, on a la quatrième population des emprisonnés du monde. Et les conditions dans les prisons créent vraiment des groupes comme ça qui gèrent l'ordre intramuros du système pénitentiaire.
Oui, donc c'est aussi le résultat d'une politique d'incarcération massive qui s'est beaucoup accentuée, en particulier dans les années 2000. D'abord à Sao Paulo, mais aussi dans tout le reste du pays. C'est aussi ça qui est en jeu.
Oui, ouais. Exactement.
Alors,
exactement.
En fait,
ouais. Ça c'est le cœur du problème à mon avis, quoi.
D'accord. Daniel Veloso Hirata, et là on retrouve des points communs avec le Mexique et le Salvador, parce que en fait ce PCC, ce premier commando de la capitale, il n'a pas toujours été aussi puissant, et paradoxalement, il s'est considérablement renforcé dans le milieu carcéral précisément. C'est la consolidation de ses fondations à l'intérieur même des prisons qui lui a permis ensuite de s'étendre dans la plupart des banlieues de Sao Paulo.
Exactement, c'est exactement ça. En fait, il y a plusieurs recherches ethnographiques, des recherches de terrain au dedans, au dehors de la prison, qui montrent très bien que, disons, à l'origine du PCC, qu'est-ce qu'on a ? On a un processus d'incarcération assez important à São Paulo. Et puis des conditions pour les emprisonnés qui étaient et qui sont encore pénibles, quoi. Donc les PCC il apparaît en premier lieu pour faire la gestion de l'ordre dedans de la prison, pour faire la gestion de la vie en fait. Ça veut dire que l'État il donne pas toutes les conditions que les prisonniers ont besoin pour vivre, les savons, la nourriture et tout ça. Et donc, pour faire survivre les prisonniers et pour finir avec les meurtres, les disputes internes aux groupes criminaux des prisons à São Paulo, les PCC, ils émergent enfin, comme groupe qui prétend faire la pacification d'abord des prisons et après des quartiers populaires.
Alors justement, là je voudrais m'arrêter un instant parce qu'on comprend très bien les choses. C'est-à-dire que paradoxalement, ce que vous nous expliquez, c'est que ce premier commando de la capitale, le PCC, il est parfois présenté comme, disons, un acteur de paix, je mets des guillemets, mais en tout cas qui participe d'une certaine manière à la régulation des conflits dans le système carcéral, on le comprend bien. Mais comment se fait-il qu'il soit devenu également un régulateur de conflits à l'extérieur du système carcéral ?
Parce que en fait, le système carcéral pauliste de São Paulo, en fait, il était un peu comme je peux dire. Il était, il y avait un rapport avec les groupes qui s'est placé dans les quartiers. Donc, par exemple, on avait des divisions internes à la prison, des groupes de criminels qui correspondaient au quartier de la ville de São Paulo. Et comme tous les groupes criminaux étaient un peu en guerre tout le temps, les systèmes prisonniers étaient assez violents, quoi. Beaucoup de mortes. Et les PCC émergent donc pour faire finir, que ce soit dans les prisons, que ce soit au dehors des prisons, pour finir les meurtres entre les criminels. Les slogans du PCC étaient toujours la paix entre les criminels et la guerre contre la police. Mmh. Ça veut dire que le système prisonnel il augmente, les plus le PCC il augmente aussi. Ça c'est une chose qui était constatée par diverses recherches à São Paulo. Et en plus, il y a une chose qui est plus grave. Pour faire les prisons être dehors de la vue des citoyens de São Paulo, il y a tout un processus d'intériorisation des prisons à São Paulo. Ça veut dire que les prisons ils étaient fermées au-dedans de la ville et ils étaient placés, construits dans la campagne à l'intérieur. Mmh. Bon. Le secrétaire de sécurité de São Paulo à l'époque, il pensait que ça allait isoler les emprisonnés à la campagne. Mais en fait, ça a augmenté l'influence du PCC au-dedans de l'État de São Paulo et plus loin de l'État de São Paulo. Ça veut dire que d'un côté, l'aspect répressif et punitif, il augmente les PCC. Et de l'autre côté, la distribution spatiale explique beaucoup aussi l'accroissement de groupe, quoi. Mmh. L'accroissement et la légitimité que les groupes prennent entre les emprisonnés, quoi. Mmh.
Vous avez dit une phrase très...
On voit, par exemple, le chiffre de d'homicides à São Paulo, on note très bien qu'il y a en correspondance entre l'augmentation du pouvoir du PCC et la baisse des taux d'homicide de São Paulo. São Paulo, actuellement, a un des taux les plus baisses du Brésil d'homicide, quoi. Mmh.
Vous avez dit la paix entre les criminels et la guerre contre la police, en fait, Daniel Velloso.
Un groupe contre l'État c'est justement en réponse aux politiques étatales, quoi.
Et Daniel Velloso Hirata, vous avez dit tout à l'heure la paix entre les criminels et la guerre contre la police. On pense parfois qu'on a d'un côté l'État qui assure la sécurité, qui est incarné évidemment par les policiers, et puis le crime organisé qui produirait la violence. Or, les choses sont en réalité beaucoup plus complexes. C'est-à-dire qu'en fait, au Brésil, mais c'est vrai aussi du côté du Mexique dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi une vraie violence d'État qui nourrit d'une certaine manière la violence produite par ces organisations criminelles. Les choses sont plus compliquées.
Mmh. Oui, c'est en fait la police au Brésil, c'est une police qui tue beaucoup et qui meurt beaucoup aussi, parce que elle était pensée. Enfin, la police au Brésil, c'est une police militaire. Ça veut dire qu'elle était conçue au dedans de l'armée. C'est pas une police. On a une police civile, mais on a en fait deux polices ici. On a une police civile qui c'est la police judiciaire, mais on a aussi la police la plus importante du Brésil, c'est la police militaire qui mène en guerre contre l'ennemi intérieur, quoi. C'était depuis son origine, l'horizon normatif de la doctrine des formations des soldats, des policiers, tout ça. Donc c'est vraiment difficile de penser les PCC sans penser les rapports avec la police, que ce soit les rapports des guerres d'un côté et que ce soit des rapports des accords pour faire fonctionner tous les marchés de la drogue, les marchés du vol des véhicules, qui est assez important, les marchés des armes et tout ça, quoi.
Benjamin Moalik, vous voulez réagir?
Alors, on a vu au Salvador des phénomènes assez similaires à ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire à la fois une incarcération massive de Mareros et cette incarcération a donné lieu à une structuration nouvelle de ces pandillas, et notamment autour de la diversification de ressources, c'est-à-dire que plus il y a eu d'emprisonnés, plus ces groupes, ces gangs ont dû trouver des ressources nouvelles pour pouvoir subvenir aux besoins des gens qui étaient à l'intérieur. Et ce qui, paradoxalement, implique beaucoup plus d'assassinats, parce que les récalcitrants qui ne veulent pas donner une partie des extorsions, du racket, ou qui ne sont pas dans le trafic de drogue, en fait, vont être mis au pas, et souvent par l'assassinat.
Toute dernière question, Daniel Velosso-Hidata, et puis après on arrivera vraiment au terme de cette émission, donc je vous demanderai peut-être une réponse concise, mais on voit bien que tout, finalement, tourne autour de cette question de la prison. Le président brésilien Michel Temer, qui a remplacé Dilma Rousseff, a dit d'ailleurs qu'il allait prendre des mesures d'urgence face à la crise du système pénitentiaire. Comment est-ce que vous jugez cette réaction des autorités sur cette question du système pénitentiaire qui est au cœur des questions qu'on évoque ce matin?
Bon, après les coups d'État ici au Brésil, le Temer a pris la présidence, mais il était appuyé par des secteurs les plus conservateurs au Brésil, et je dirais, dans ces questions particulières de la sécurité publique, par des secteurs extrêmement à droite. Donc le ministre de la Justice, c'est un peu comme le ministre de l'Intérieur en France, le ministre de la Justice ici, c'est une personne qui a complètement abandonné tous les programmes qui avaient un peu des aspects sociaux. Et en plus, il a même fait une déclaration qui touche beaucoup nous, les chercheurs, qu'il a dit non, on a suffisamment de recherches sur la sécurité publique, on ne besoin pas de recherches, on a besoin d'armes. Donc pour moi, c'est très, très, très emblématique d'un type de politique qui se prend complètement au dehors de l'objectivité scientifique, complètement au dehors des demandes des droits humains des prisonniers. Et donc ça va faire qu'augmenter les problèmes de la violence interne aux prisons et aussi à l'extérieur dans les quartiers au Brésil.
Voilà, on l'entend malheureusement, les choses ne vont...
Les mesures sont pas nouveaux, c'est des mesures qu'on peut recycler des anciens gouvernements. Et c'est vraiment, on sait déjà les résultats qui vont prendre.
Malheureusement, probablement de mauvais résultats. En tout cas, merci beaucoup Daniel Velosso-Hidata d'avoir été avec nous en direct depuis le Brésil. Vous êtes sociologue, professeur à l'Université fédérale Fluminense. Je rappelle que vous avez participé à cet ouvrage Sao Paulo, la ville d'en bas, qui était paru chez L'Harmattan. Et merci à nos deux invités qui étaient avec nous ce matin en plateau. Sabine Guez, merci beaucoup. Ainsi que Benjamin Moalic. On mettra bien sûr toutes les références des articles, des ouvrages sur la page de Culture Monde, sur le site de France Culture. Mais tout de suite, place au monde des idées avec Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et alors nous vivons, c'est vrai, un changement d'époque. Hein, on le voit, certains événements politiques jugés hier encore impensables, mais ces bouleversements ont été préparés de longue date par des modifications dans l'air du temps, dans la culture. Et c'est le thème de vos chroniques cette semaine, Brice.
Bah oui, par exemple, que la contre-culture des 60s se soit avérée parfaitement compatible avec le néolibéralisme des années 80, c'est devenu une évidence. Une bonne part de l'œuvre de Jean-Claude Michéa est destinée à la critique de cet alliage a priori contre-nature, de l'économie libérale et de l'esprit libertaire. Elle s'est incarnée dans le personnage emblématique de notre époque, du bourgeois bohème. Or, l'un des tout premiers à en avoir eu l'intuition est un professeur de littérature de l'université Columbia, spécialiste de l'histoire des idées et fin connaisseur de la vie intellectuelle française, Marc Lilla. Dans un article judicieusement traduit par la revue Esprit en octobre 1998, intitulé « La double révolution libérale 60s et Reaganomics », Marc Lilla se servait d'un détour par la pensée conservatrice pour montrer combien la délégitimation de l'autorité publique dans tous les aspects de la vie sociale avait permis un recul de l'État favorable au déploiement du marché. Comment un individualisme poussé à ses ultimes limites avait produit une culture de l'incivilité et de l'irresponsabilité est rendu possible la contre-révolution reaganienne. La révolution culturelle et la révolution de Reagan ont eu lieu dans l'espace d'une seule génération et ce sont des événements complémentaires et non pas contradictoires, concluait l'auteur. Alors on peut créditer Marc Lilla d'avoir de la suite dans les idées. Lui, qui n'appartient pas au courant conservateur, ne cesse de réclamer qu'on prenne celui-ci au sérieux. Il s'amusait il y a quelque temps dans la Chronicle of Higher Education que l'étude de la pensée conservatrice dans les universités américaines soit abordée sous l'angle des questions de race, de genre et de classe. Ou encore qu'on y étudie tout ensemble les grands auteurs tels qu'Edmund Burke ou Peter Viereck et les groupuscules néo-nazis. Dans beaucoup d'universités, ajoutait-il, on se débarrasse du sujet en faisant du conservatisme américain une affaire classée, une bande d'anticommunistes qui se serait éteinte avec la guerre froide. Les universitaires de tendance conservatrice sont très rarement embauchés par les universités, ajoutait-il. Il disait, nous avons fait de sérieux efforts pour accroître notre diversité raciale et ethnique. Il y a même des doyens payés qui travaillent uniquement sur ce sujet, mais les universités ne manifestent pas le plus léger intérêt pour la diversité intellectuelle parmi leur personnel enseignant.
Et alors Marc Lilla, qui manifestement connaît bien notre milieu intellectuel, y a-t-il trouvé davantage de diversité?
Eh bien pas vraiment, Florian. Dans ce même article, il évoque un dîner bien parisien où la conversation avait porté sur l'œuvre de Léo Strauss. Alors qu'elle s'apprêtait à devenir intéressante, une des personnes présentes l'avait refermée d'un seul mot. Mais n'était-il pas un conservateur ? Durant près d'un demi-siècle, la pensée progressiste avait acquis une telle hégémonie qu'elle n'était plus mise en question. Il suffisait de caractériser un penseur comme conservateur ou pire, réactionnaire, pour lui retirer toute légitimité intellectuelle et à régler les questions posées. Eh bien, cette époque se termine. On le voit à de nombreux signes, notamment au succès public, remporté par des auteurs en rupture ouverte avec la doxa progressiste et condamné par elle. Aux États-Unis, par exemple, ces jours-ci, droite et gauche confondues font un succès au livre de J.D. Vance, Hillbilly Elegy, A Memoir of a Family and Culture in Crisis. C'est le témoignage d'un de ces petits blancs en colère des Appalaches qui ont donné le pouvoir à Trump, l'anti-bobo précisément. Mais il semble qu'il suffise de dénoncer les médias de gauche et la manière dont ils détruisent la libre expression pour faire un best-seller en ce moment. Deux essais portent exactement ce même sous-titre, dont l'un, The Silencing, est signé par Kristen Powers, une éditorialiste en vue qui a servi pourtant dans des administrations démocrates, donc classée à gauche. L'autre, The Intimating Game, est signé Kimberly Strassel, elle est éditorialiste au Wall Street Journal. Et pourtant, écrit Mark Lilla dans son dernier livre, The Chip-Wrecked Mind, On Political Reaction, la pensée du naufrage sur la réaction politique, qui n'est pas sortie en français, je le précise, les penseurs réactionnaires ont bien des choses à nous révéler sur ce que nous sommes en train de vivre. Car qui opte pour l'exil intérieur perçoit des changements dont la portée échappe aux contemporains. Le refus de l'époque confère une position d'extériorité et la nostalgie du passé donne d'utiles éléments de comparaison avec le présent. Là où d'autres voient le fleuve du temps passé comme il l'a toujours fait, le réactionnaire voit les débris du paradis flotter à la dérive, dit-il dans l'introduction de son livre. La nostalgie politique, contrairement au progressisme, est irréfutable, relève-t-il encore. Or, la nostalgie politique aura été l'une des grandes forces intellectuelles motrices du XXe siècle. À l'issue de chacune des deux guerres mondiales, on a pleuré la disparition du monde d'hier avec Stefan Zweig. Chaque fois fut proclamée la disparition du monde tel que nous l'avons connu. On trouve des réactionnaires à droite principalement, mais il y en est aussi à gauche. Dans les deux cas, et c'est le point essentiel de la démonstration, existe la tentation de remonter le cours de l'histoire afin de déterminer quel mauvais embranchement aurait été pris. C'est la grande affaire des réactionnaires.
Remonter le cours de l'histoire, c'est ce que vous allez tenter de faire toute cette semaine, Brice Couturier. Merci beaucoup pour cette chronique. On peut retrouver bien sûr sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain bien sûr, mais pour l'heure sur France Culture, on retrouve La Grande Table avec Olivier Gisbert.